J'ai participé effectivement au concile de Kolymparis, hein, donc cette ville de Crète où se sont réunies 10 églises orthodoxes. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la liturgie conclusive, hein, du dimanche de tous les saints, qui a montré une unité qui n'était pas simplement intellectuelle, parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de débats dans la semaine, des points de vue souvent assez différents entre des églises qui vivent dans des contextes différents. L'église de Serbie ne vit pas ce que les orthodoxes en France ou aux États-Unis vivent. Et néanmoins, des consensus avaient été trouvés. Mais lors de la liturgie de conclusive, il y a eu en plus une sorte de célébration d'une unité spirituelle et d'une unité retrouvée. Donc les visages étaient très joyeux, détendus. Le patriarche Bartholomée, qui l'a célébré avec les primats, a mentionné aussi les absents, c'est-à-dire le patriarche Kirill en particulier, et puis le chef de l'église d'Antioche, de Géorgie, de Bulgarie. On a craint à un certain moment que la dispute pourrait peut-être même se transformer en schisme pour des raisons géopolitiques. Mais non, il y a cette unité spirituelle qui existe, et avec une ferveur populaire. Donc je suis revenu avec beaucoup de joie, en fait.
Alors, une encyclique résumant les conclusions du concile et les documents qui ont été signés par les différents participants a été publiée à la fin du concile. Quelle est sa validité, étant donné l'absence de 4 églises, dont l'importante église de Russie ?
La validité, elle est totale, puisque, comme ça a été dit par les pères conciliaires, l'ensemble des 14 églises orthodoxes avaient accepté dès 2014 que se tienne ce concile, et ça avait été redit par l'ensemble des églises orthodoxes au mois de janvier 2016. Certaines ont finalement décidé de ne pas venir, et tout le monde a bien compris pourquoi, pour des raisons géopolitiques. Mais le patriarche Bartholomée a été très clair, et ça a été soutenu par tous les primats qui étaient là. Le concile, maintenant, s'est tenu, a pris des décisions, et ces décisions sont valides et donc s'appliquent à l'ensemble des églises orthodoxes. Et en plus, je dirais qu'il y a un travail qui a été vraiment fait pour essayer d'intégrer les absents, c'est-à-dire que, par exemple, le texte sur le mariage, il a été durci en fonction justement de l'église de Géorgie, dont on savait qu'elle n'était pas à l'aise avec ce texte. Donc, je dirais que pour des occidentaux, ce texte sur le mariage, il est difficilement lisible, hein, puisqu'on se dit mal à l'aise par rapport au mariage mixte, par exemple, entre chrétiens. Mais on comprend que ça a été par consensus pour essayer d'intégrer au maximum même les courants les plus conservateurs de l'église. Je prends cet exemple pour dire que grâce aux débats en profondeur qui ont eu lieu, il y a vraiment eu une réconciliation des différents courants qui a été faite au niveau intellectuel et spirituel.
À quoi ont abouti les discussions de ce concile ? De nombreux thèmes ont été abordés.
Par exemple, reconnaître la validité de l'ecclésialité de l'Église catholique. Ça, c'est quand même fondamental. Et, alors, ce n'est pas l'argument le plus brillant qui a été trouvé, mais le seul argument qui a été utilisé, celui de Monseigneur Jean Zizulas, qui consiste à dire « Nos pères dans la foi ont reconnu l'ecclésialité des autres églises hétérodoxes, non orthodoxes. Est-ce que nous serions suffisamment forts pour contredire nos pères dans la foi ? Non. Et là, je dirais qu'il y avait une unanimité de tous. C'est-à-dire que peut-être que tout le monde n'est pas au même niveau et pas forcément capable aujourd'hui de dire « voilà, l'Église catholique, c'est l'Église sœur ». Mais par contre, grâce à cet argument, qui est plus de l'orthodoxie comme de la mémoire fidèle, eh bien, on a reconnu l'ecclésialité des autres églises, comme l'Église catholique, mais aussi l'Église luthérienne, l'Église anglicane. Donc ça me paraît extrêmement important. C'est une grande victoire d'une Église orthodoxe qui se définit enfin comme une Église écuménique.
Sur le fond, il y a d'autres thèmes que l'œcuménisme qui ont été abordés. Est-ce que certains ont cristallisé les discussions ?
Il y a eu beaucoup de discussions, et sur tous les sujets, sur tous les textes qui ont été adoptés. Notamment, il y a eu aussi un débat entre ceux qui voulaient utiliser le terme de d'être humain, quand on parle de l'homme dans les différents textes, et puis ceux qui disaient « mais il y a une philosophie de la personne qui a été développée au XXe siècle par des grandes figures, c'est pas comme Berdiaïev dans le monde russe, mais dans le monde occidental des penseurs comme Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, etc. Et donc, Zizulas, la métropolite Zizulas, utilise ce terme de personne. Et ça, c'était pas forcément bien compris par les Grecs, par exemple. Donc, il y a eu des débats importants et finalement, un équilibre a été trouvé pour utiliser dans certains cas le terme de personne, dans d'autres cas, le terme d'être humain. Je résume, bien entendu, il faut se plonger dans les textes, mais ça a des conséquences importantes au plan ecclésiologique, anthropologique. Encore une fois, l'Église orthodoxe a trouvé une actualisation de sa doctrine patristique qui rend possible une lecture de ces textes au-delà du monde orthodoxe et je dirais au-delà même du monde chrétien. Lorsqu'on lit l'encyclique, on voit que l'Église orthodoxe se comprend comme une Église monde qui s'adresse à l'ensemble du monde et qui propose des solutions pour sortir de la crise de la modernité, qui d'un côté intègre le meilleur de la modernité, comme la liberté de conscience, l'état de droit, la justice, etc., mais qui en même temps dit il y a aussi une crise écologique, le libéralisme, la pléonexie, le sens de l'avidité, etc. Et donc elle propose des solutions comment permettre une société véritablement conviviale, humaniste, fondée sur la dignité des personnes. Et ça, je crois que c'est vraiment le résultat de débats, de consensus qui permettent à l'Église orthodoxe de retrouver un dialogue, une sorte de position commune et donc de dialogue avec le monde contemporain.
Ça veut dire que quelque part ce concile lance une nouvelle orthodoxie ou c'est la même mais modernisée ?
C'est la même orthodoxie, c'est une orthodoxie qui est tout à fait plongée dans la tradition, mais qui intègre le meilleur de la modernité et du coup se met en position de dialogue et aussi d'évangélisation. Donc ça me paraît important. Elle a accepté, par exemple, de dire nous avons aussi des courants fondamentalistes dans l'Église orthodoxe et c'est grave. Ça met en cause notre identité, notre unité. L'autocéphalisme, le fait que chaque église élise son propre chef, ça peut être très bien parce que ça permet d'avoir des solutions locales à des problèmes locaux. Mais si ça aboutit à la division et au fait que c'est des petits monastères qui font la loi dans l'Église orthodoxe, ça va pas. Il faut que l'Église orthodoxe elle est synodale, elle prend des décisions ensemble et donc ça a été affirmé avec force. Et je crois que c'est un des grands succès de ce concile.
Juste une dernière question. Les participants au concile ont proposé de renouveler ces rencontres tous les 7 à 10 ans. Qu'est-ce que ça révèle ?
Beaucoup de journalistes ont dit il n'y a pas eu de concile depuis 1000 ans. L'Église orthodoxe était un musée, etc. Les pères conciliaires ont dit mais pas du tout. On a eu des conciles. On en a eu d'abord au 9e siècle, ensuite au 13e siècle, ensuite au 15e siècle, ensuite au 17e siècle. Et même la décision qui condamnait le nationalisme au 19e siècle, c'est la dernière date qu'il mentionne comme exemple de synodalité, c'est 1878. Donc voilà, c'est un point là aussi très important. C'est que, alors ensuite, on peut contester. Moi, en tant qu'historien, Je regrette par exemple que le concile de Florence de 1439 ne soit présenté que sous un visage négatif. Mais peu importe, ce qui est important, c'est que justement l'Église orthodoxe se retrouve une histoire et donc peut là aussi entrer en dialogue. Non seulement l'Église orthodoxe finalement se réinvente un passé. Ce passé, il existait, mais il n'y avait pas de consensus autour de ce passé. Donc là, il est affirmé dans l'encyclique. Et du coup, ça donne un dynamisme pour se revoir, pour essayer d'avoir de nouvelles tentatives de consensus sur des sujets qui n'ont pas été traités, comme par exemple la date de Pâques, sans parler des sujets plus complexes, des sujets géopolitiques comme la question de l'Ukraine, etc. Mais effectivement, ils se sont donné comme objectif de se réunir tous les 7 ou 10 ans.